fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, c'est Action d'Europe et un reportage à Zaporijja, en Ukraine.
Radio G. 101.5 FM.
Envie de rire à Angers ?
La compagnie théâtrale du Pont d'Ardoise présente Un père et père de Ray Kouné.
Une comédie hilarante mise en scène par Carole Galisson.
Vendredi 20 et samedi 21 février à 20h précises, dimanche 22 février à 15h.
Salle Claude Chabrol, 14 rue des Pruniers à Angers, tarifs 9 et 5 euros, billetterie sur place.
Les infos au 06 22 40 12 83 et sur lepontdardoise.fr.
C'est Topette, la quotidienne de Radio G, présentée par Pierre Benoît.
Bonsoir, bonsoir l'équipe, comment ça va Sidonie ?
Eh ben ça va très bien, écoute, et toi Pierre Benoît ?
Ben oui, ça va, merci. Bonsoir Loris, toujours là ? Tu
toujours
t'en vas
là.
Pas décidément ?
Non.
Bah si, demain ce sera ta dernière journée quand même, tu vas nous quitter.
Demain ? Oui, demain ce sera ma dernière journée.
Ouais.
Malheureusement, je vois que tout le monde est triste autour de la table.
Oui, bah il y a même des applaudissements, non, vous le flemme de les trouver.
Ouais,
bien. Bon, en tout cas voilà, vous êtes là aujourd'hui, tout à l'heure on vous présentera puisque vous allez faire un petit papier concernant les inondations en ce moment, je crois, avec
oui,
le préfet.
Sur le préfet, toutes les actus qu'il a évoquées.
Voilà, les actus du préfet dans Topette ce soir. Dès le début d'émission, on aura la chronique ciné aussi, 2 et 1 demi de Mathéo et de Johan qui vont arriver en cours de route. Alors, je ne sais pas de quoi ils vont parler, mais bon, toujours très intéressant. On va leur réserver de la place aussi parce que c'est des fois, ils débordent un petit peu du timing. On a aussi Esteban qui est toujours là. Finalement, t'es revenu, on est mercredi, mais t'es revenu juste pour aujourd'hui. T'avais pas...
Et oui, j'avais envie.
Pas court, bon bah merci, ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Et puis je redonne la parole à Sidonie et Loris, puisqu'on va aussi parler des moins de 15 ans, je crois, au cours de cette émission.
Et oui, c'est ça, en gros, on a réalisé un petit reportage sur l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, c'est super intéressant. Enfin, on verra bien.
Oui, en tout cas, vous avez eu l'occasion d'interviewer plusieurs intervenants et intervenantes, notamment des psychologues, des profs peut-être, des enfants aussi.
Des enfants.
Qui peuvent être concernés, voilà. Donc ce sera autour de 18h30. Et puis on a des invités, bien évidemment. C'est le retour de Yago. Vous le savez, elle était venue avec ses musiciens et musiciennes il y a quelques temps pour nous parler de sa date à On Stage. C'était le 17 décembre. Et là, elle revient puisqu'elle nous avait interprété Galaxy en live. C'était un vrai plaisir. Ben, on va réécouter Galaxy tout à l'heure en exclusivité encore une fois, c'est la version studio cette fois-là, parce que Galaxy sort le 18 février, donc c'est l'occasion d'en parler. Yago est avec nous au cours de cette émission. C'est parti pour ce soir.
18h10, 19h, Topette, avec Pierre Benoît.
Et on est le 18 février en fait, donc ça sort tout simplement aujourd'hui. On l'accueille dans quelques instants, mais avant ça, le papier de Sidonie et de Loris.
Hier, avec Sidonie, on est allé au petit déjeuner du préfet de Maine-et-Loire, un petit déjeuner qui accueille les journalistes de la région pour discuter des sujets locaux. Et on va donc vous faire un petit résumé des sujets importants évoqués hier.
Pour commencer, le nouveau préfet de Maine-et-Loire s'est voulu rassurant sur la situation météorologique dans le département. Les pluies récentes, a-t-il précisé, n'ont rien de comparable avec les grandes crues de 2003, 2019 ou encore celles de l'an dernier. Actuellement, le territoire est majoritairement placé en vigilance jaune. Seuls quelques secteurs sont concernés par une vigilance orange et ils restent peu impactés localement. La Loire devrait toutefois continuer à monter dans les prochains jours avec une hausse de plus d'un mètre attendue. Une augmentation visible, mais qui ne présente pas de caractère exceptionnel. Le message des autorités est clair, pas d'inquiétude majeure à ce stade, mais un appel à la prudence, notamment aux abords des berges et dans les zones habituellement inondables.
Autre gros sujet abordé, la gestion de l'eau et des besoins de l'agriculture, notamment en été quand les ressources se font plus rares. Le préfet a d'abord voulu clarifier un point important. Contrairement à ce qui peut circuler, les études HMUC ne prévoient pas une baisse générale de 80% des volumes d'eau. En réalité, les réductions varient plutôt entre 10% et parfois donc beaucoup plus, jusqu'à 80%, mais que dans certaines zones et surtout en période de basse eau. Mais concrètement, une question se pose, si on peut moins prélever en été, que fait-on ? Deux options sont donc sur la table, soit on continue à prélever comme avant au risque de dégrader encore plus l'environnement, soit on change de logique. Le préfet, lui, défend plutôt la seconde voie, stocker de l'eau quand elle est abondante pour pouvoir utiliser plus tard. Le message est donc clair, l'enjeu n'est pas seulement de réduire ou non les prélèvements, c'est surtout de mieux gérer l'eau dans le temps et surtout d'anticiper.
À l'approche des élections municipales, le nouveau préfet de Maine-et-Loire affiche sa confiance. Quant au nombre de candidatures enregistrées et au bon déroulement des scrutins, contrairement aux inquiétudes exprimées ces derniers mois, il n'anticipe pas de vagues massives de communes sans candidats. À ce stade, une trentaine de listes ont déjà été déposées, un chiffre jugé classique dans le calendrier électoral. Le préfet appelle toutefois à la vigilance. Pas question d'attendre la dernière minute pour déposer les dossiers. Parité, formulaire, éligibilité des candidats. Les vérifications administratives sont nombreuses et la validation peut prendre plusieurs jours après le dépôt. Il a également évoqué la situation des communes nouvelles et, les dérogations sur le nombre de conseillers municipaux. Un retour au droit commun est envisagé, mais la transition a été repoussée à 2032 pour éviter des difficultés locales. Message clair, le scrutin est sous contrôle, mais son organisation reste complexe et juridiquement sensible.
Enfin, le préfet et les journalistes ont abordé un sujet important, la sécurité routière. Le préfet se veut clair, la situation se dégrade, le nombre de morts sur les routes est en hausse par rapport à l'an dernier, et pour lui, il n'y a pas de mystère, il faut agir et vite. La stratégie du préfet repose sur d'abord la prévention, expliquer, sensibiliser, rappeler les règles, et bien sûr l'inévitable, la répression, c'est-à-dire sanctionner quand c'est nécessaire. Le message est donc simple, on ne peut pas se contenter de dire aux gens de faire attention, il faut aussi intervenir quand les comportements sont dangereux. L'alcool et les stupéfiants en volant, les grands excès de vitesse et surtout l'usage du téléphone en conduisant. Le préfet insiste donc sur un point, les sanctions ne visent pas tout le monde, elles ciblent surtout les comportements à très haut risque. Derrière ça, il appelle surtout à la responsabilité, je cite « respecter les règles, ce n'est pas pour embêter les automobilistes, c'est aussi une question de vie humaine ».
En conclusion, lors de ce premier petit déjeuner avec la presse, le préfet de Maine-et-Loire a dressé une feuille de route claire. Vigilance sans dramatisation sur la Loire, gestion plus stratégique de l'eau face aux tensions estivales, organisation rigoureuse des prochaines municipales et fermeté assumée sur la sécurité routière. Un discours à la fois rassurant et déterminé qui mêle prudence, responsabilité collective et cadre réglementaire strict. Autrement dit, pas d'alarmisme, mais une volonté affichée d'anticiper, d'encadrer et de sécuriser les grands dossiers locaux des mois à venir.
Eh ben merci beaucoup Loris et Sidonie pour ce papier. Vous restez avec nous bien évidemment pour accueillir nos invités qu'on accueille tout de suite sans transition finalement.
L'invité de Topette sur Radio G.
Des invités, une invitée qu'on connaît très bien. Bonsoir Yago.
Bonsoir.
Enfin, qu'on connaît très bien. Tu es déjà venu en tout cas en studio. C'était il y a à peine plus de 2 mois.
Ouais, à peu près, ouais.
Tu vas pouvoir nous parler de comment s'est passée cette date du 17 décembre sur les planches de, dans le cadre de On Stage, sur les planches du Joker's Pub. Tu vas nous parler de Galaxy encore une fois qui est sorti, peut-être de l'EP. Je sais plus où est-ce qu'on en était sur la construction. Non, c'est juste pour l'instant juste entre guillemets, ce projet, ce titre. Tu es venu accompagné de ton photographe. Je crois, je sais pas si on peut le citer.
Oui.
Dire bonjour. Bonjour.
Ouais, bonjour. Salut.
J'ai pas ton prénom, donc c'est pour ça que je te présente.
C'est Erwan.
Erwan, et ben enchanté Erwan, donc qui fait principalement les photos. Si j'ai bien compris, de photos qu'on peut voir déjà sur les réseaux sociaux, tes réseaux sociaux.
Ouais, sur d'autres dates. Déjà, on a fait une date la semaine dernière au Musée des Beaux-Arts. Donc, Erwan a pu faire les photos. Sinon, ouais, L'année dernière aussi. Et un peu pour de la com aussi.
Et un peu pour de la com. Et d'ailleurs, en parlant de com, je crois qu'il y a eu une live session sur Sun Radio à Nantes, si
ouais,
je ne m'abuse. Hein.
Tout à fait. On a fait ça en décembre.
C'est un peu la consécration, ça, quand on est un groupe, une artiste locale aussi, d'avoir cette live session, ça représente quelque chose.
Ouais, on était trop contents dès qu'ils nous ont contactés. Moi, je me souviens que je suivais déjà un peu tous les artistes qui passaient par là. Donc, y être personnellement, c'était vraiment super chouette, on a été trop bien accueillis, c'est bien passé, donc trop contente.
J'avais pas le son sur les réseaux sociaux à ce moment-là, parce que du coup, fallait pas que je fasse trop de bruit. J'ai pas pu entendre le titre qui était joué, c'était Galaxy aussi ou...
On a joué 4 titres.
4 titres au total.
Ouais. Donc un petit concert comme ça. À la radio, c'est différent que jouer en live devant des personnes quand c'est enregistré. Donc c'était un drôle d'exercice aussi, mais c'était super cool. Ouais.
Ouais, tu veux dire qu'il manque peut-être l'énergie du public aussi qui se renvoie et qui t'alimente.
Et puis on est dans une pièce, c'est tout feutré, il y a que nous, y a avec les caméras et tout, mais c'est cool quand même, c'est différent.
Alors, puisqu'Esteban est là, il avait préparé 2-3 petites questions pour toi. On va lui laisser le micro dans quelques secondes. Mais juste avant, cette date du 17 décembre au Joker's Pub, c'est pareil. Peut-être que tu es un habitué du Joker's par ailleurs. Peut-être que tu as pu aussi aller profiter des propositions de la programmation musicale là-bas, scénique. Qu'est-ce que ça a fait? Comment tu t'es senti avec tes musiciens, musiciennes? Tout s'est bien passé, super bonne énergie. Il y a eu des quoi? Je sais pas, des petites anecdotes, des choses comme ça, Iago?
Oui, c'est vrai que moi je suis un peu une habituée du Joker, on y va souvent pour voir des concerts, donc encore une fois, pouvoir être sur la scène, c'était quelque chose. Nous on en retient trop des bons souvenirs, il y avait pas mal de personnes du coup qui ont pu nous découvrir et qui étaient très contentes. Forcément, c'était la première fois qu'on jouait ce set là, c'était un nouveau set qu'on avait travaillé quelques semaines à l'avance, donc c'était un peu le crash test, mais le crash test s'est bien passé. C'est toujours un peu le stress de présenter les nouvelles choses devant le public, mais ça a bien marché, donc on était contents.
Je me souviens plus trop ce qu'on avait dit sur ton parcours, ton profil par rapport à la scène. C'était pas une de tes premières scènes à ce moment-là?
Non.
Ou peut-être pas avec ce projet?
Non, on a commencé à jouer tous les quatre en septembre 2024, donc ça fait un peu plus d'un an. Mais en fait, on a eu l'occasion de retravailler tous nos morceaux avec en résidence, donc avec un regard d'un accompagnateur extérieur, et ça nous a vraiment aidé. Et donc là, c'était la deuxième fois là qu'on jouait dans ces conditions-là.
En attendant le Shabada, peut-être.
Un jour peut-être.
Non, on espère, peut-être l'équipe Espoir aussi qui viendrait derrière. C'est souvent un petit peu le chemin qui y a après un stage également. Esteban, tu as eu l'occasion de découvrir un petit peu, d'entendre ce que proposait Iago, et tu avais noté quelques questions à lui poser éventuellement.
Alors oui, une question, j'ai plus le nom exact du prix, mais tu as remporté un prix en 2025. Qu'est-ce que ça t'a fait de remporter ce prix, et est-ce que tu t'y attendais?
Du coup, c'était le tremplin Pulsation, c'est un tremplin étudiant organisé par le CROUS. Et déjà, c'était, je pense, c'était la première fois qu'on jouait vraiment sur une grande scène avec des conditions vraiment plus professionnelles, avec le bon matériel, etc. Et donc déjà, ça permet, je pense, de pouvoir présenter ce qu'on joue dans les meilleures conditions. Et donc, c'était surtout un moment de plaisir tous ensemble, de pouvoir vivre la musique qu'on propose dans les meilleures conditions possibles. Et donc, trop contente de l'avoir remporté. On était deux groupes à avoir eu le prix. L'autre groupe, c'est Bloom, qui vient du Mans. Et en fait, trop fière d'avoir fait ça à leur côté, parce qu'ils font trop de la bonne musique aussi, donc c'était super.
Bloom, trop de la bonne musique. Vous étiez avec
Redbirds.
Redbirds,
ouais,
voilà, c'est ça.
On stage. Ouais, c'est ça.
Esteban, d'autres questions peut-être?
Non, moi, c'est tout.
Bon, la question d'Esteban est passée. Du coup, tu n'hésites pas, hein, si tu as d'autres questions à poser à Iago. Peut-être Sidonie ou Laurie. Sidonie, toi, tu te rappelles de Iago avec son live qu'elle avait interprété aussi quand elle était venue dans Topette?
Oui, je m'en rappelle. Bien sûr que je m'en rappelle. Comment on pourrait oublier? C'était vraiment une ambiance assez sympathique. Toujours un style un peu détente, indie, tout ça, que j'apprécie toujours. Et contente que tu reviennes. Voilà. Après, des questions, j'en aurais peut-être au fil de l'interview. Mais là, pour l'instant, non.
Interview, on va faire une petite pause dans l'interview, parce que ce que je te propose, c'est d'entendre Galaxy en version studio remasterisée, enfin tout la version finale finalement, qui apparaîtrait sur un prochain EP ou un prochain album s'il était amené à en avoir un. Tu voulais peut-être en retoucher deux mots avant qu'on l'écoute ou pas?
Oui, je peux. Galaxy, c'est une chanson qui date pour moi, je l'ai écrite il y a plusieurs années, et donc je suis très contente de pouvoir la sortir maintenant. Elle me tient à cœur parce que je l'ai écrite pour ma meilleure amie, donc je vous laisse l'écouter et découvrir ce que ça vous fera.
Eh bien, on écoute. Merci beaucoup de nous partager ce titre ce soir sur le 100.5 FM.
autour, il n'y a aucun bruit. Alors, tu ne pousseras pas de cri. Ton sourire n'est pas une bougie que l'on pourrait souffler. Dans la frayeur de la nuit, il vient tout illuminer. Ta présence, une galaxie.
Galaxie de Yago sur le 101.5 FM. Mais Yago est avec nous ce soir dans Topette pour nous parler. Alors Yago, oui, c'est bien ton nom de scène, c'est comme ça qu'on te nomme, hein, Yago.
C'est bien ça.
Voilà, le diminutif de... Oula, Mathéo, il fait des bêtises. D'ailleurs, l'occasion de présenter la chronique ciné 2 et demi qui arrive tout à l'heure dans quelques instants. Mais avant tout ça, donc, on reste avec toi, Yago. Galaxie qui est sorti aujourd'hui, 18 février. Voilà. Alors, est-ce qu'il y avait une raison particulière de sortir ce titre ce jour-là particulièrement? Une signification, tu évoquais le pourquoi ce titre existait par rapport à ta meilleure amie, je crois. Je sais pas, peut-être que ça aurait pu être une date marquante pour votre relation ou que sais-je.
Ouais, ça aurait pu, mais non, finalement non. Ça collait bien pour nous, entre la suite de nos activités, ce qu'on avait prévu. Donc.
Calendrier qui suit son cours naturel.
Ouais, c'est ça.
Bon, en tout cas, qu'est-ce que tu espères que ça vienne provoquer, déclencher des réactions peut-être chez les... Là, tu le partages vraiment un peu plus largement. Du coup, maintenant, ce titre, il est disponible aussi sur les plateformes de streaming,
ouais.
J'imagine.
Ouais, tout à fait. Je pense que c'est un titre. Enfin, moi, quand je le joue en concert, on m'en parle souvent. On me dit que c'est souvent une des chansons préférées du public. Et je crois que ce qui plaît, c'est le côté un peu contrasté de constater, en fait, la chanson, elle parle de voir la douleur de quelqu'un qu'on aime. Mais de contraster avec le fait que nous, quand on voit cette personne, on ressent que du positif et l'amour qu'on a pour cette personne. Je pense que c'est ça qui donne un peu de réconfort, je pense, aux personnes qui sont touchées par la chanson.
Et puis c'est peut-être universel aussi, ça parle à des sentiments que tout le monde peut porter, peut-être aussi. Est-ce qu'il est clippé ce titre ou pas,
oui.
Pas encore, ou bientôt, ou il l'est déjà?
On a préparé un clip dernièrement. C'est mon premier clip. Et on a eu l'occasion de faire une cagnotte en novembre pour que les auditeurs, s'ils le souhaitent, puissent soutenir la création du clip. Et en fait, ça a super bien marché, genre vraiment beaucoup plus que ce qu'on espérait. Donc on a pu préparer un super clip qui sortira le 24 février. Et j'ai trop hâte de le montrer parce qu'il est vraiment trop beau.
On peut déjà avoir un aperçu descriptif, audio descriptif ou pas de ce clip?
Ouais, alors c'est la nuit, c'est la forêt, et il y a une étoile qui est tombée du ciel et que je rencontre, et avec qui je vais tisser une relation.
C'est un petit peu en fait le, oui, c'est le fond du texte finalement qui, ouais, qui est vraiment mis en scène avec la, j'imagine peut-être des étoiles, oui, la galaxie. On comprend bien du coup le l'aspect visuel du clip. Par la suite, du coup, une fois que ce clip sera sorti, ce titre est déjà sorti. Qu'est-ce qui va se produire? On continue à écumer les scènes, les bars. On part sur d'autres projets. Qu'est-ce qu'on fait, Yago?
Ouais, on a quelques concerts déjà prévus en mars. Le 4 au 4 à Angers. On va découvrir la scène du Mans aussi au festival La Nébuleuse. Et ensuite, moi j'aimerais bien sortir d'autres titres que j'ai en préparation. Et une super nouvelle qu'on a eue ces derniers temps, c'était qu'on a été sélectionné pour un accompagnement du Mint en scène. C'est un accompagnement pour les minorités de genre à Nantes avec un concert à Trempeau le 28 avril. Donc on va tout faire pour préparer au mieux cette date, qui est une super occasion, mais surtout trop hâte d'aller découvrir Nantes aussi en concert.
Oui, ça va être condensé finalement là dans les prochaines semaines, les prochains mois, beaucoup de choses. J'imagine, ouais, que tu risques d'arriver en été avec peut-être un avant-après. L'été sera pas tout à fait comme l'été précédent. Erwan, je me tourne vers toi, peut-être t'entendre parler de Yago, de son univers, de ce titre, de ce clip que tu as peut-être eu la chance de voir. Non, t'as pas pu.
Alors j'ai pu voir le clip, oui, effectivement, et ça colle carrément à tout l'univers de Yago. Hein, c'est ce côté un peu doux amer, mais plus doux quand même que amer. Et c'est toujours un plaisir de découvrir ça avec elle. Et voilà, que dire de plus, c'est juste quelque chose qui est hyper réconfortant, quoi, voilà.
Et est-ce que toi, c'est un univers musical auquel tu es déjà sensible, ou c'est vraiment la rencontre de Yago qui t'a permis d'ouvrir justement tes oreilles à ces sonorités particulières, cette galaxie qu'elle propose, pour reprendre un gros titre?
Ouais, je pense que non, on a toujours eu un peu ça en commun avec Yago, en fait, parce que moi aussi, j'ai pu faire de la musique, et je pense qu'on s'est rencontrés à un bon moment, parce que du coup ça nous a tous les deux poussés à avancer dans nos projets, et son univers colle carrément avec ce que moi j'ai l'habitude d'écouter et même de produire aussi, quoi. C'est vraiment quelque chose, ouais, qui me correspond, quoi.
Et puisqu'on a la chance d'avoir une personne qui photographie des personnes sur scène, je te pose la question, comment tu travailles, comment tu cherches à mettre en perspective, en relief, à capter cette énergie, parce que on sait bien, la photographie, il suffit pas que de des fois il y a des faits d'actualité, des choses qui, voilà, le fait d'être là à ce moment-là, ça marche. Là, c'est pas pareil, il suffit pas d'être devant la scène, de capter. Comment tu travailles, particulièrement peut-être avec Yago, comment tu as mis ça en relief?
C'est beaucoup sur le vif, je pense, et il faut vraiment, enfin moi je trouve que en concert, en tout cas, c'est important d'être pleinement investi dedans, c'est-à-dire qu'il faut pas être soit trop passif ou soit trop concentré sur la caméra. C'est, en tout cas pour moi, justement, prendre des photos en concert, c'est vraiment une manière de l'apprécier encore plus, et le fait de, ouais, suivre l'énergie des artistes sur scène, même du public, ça fait que sur le tas, j'arrive, je pense, à correspondre au mieux à ce qui se passe, quoi. Voilà.
En tout cas, j'imagine que Yago, tu es convaincu par son travail, Erwan, puisque c'est un peu, pour l'instant, c'est le photographe officiel d'une certaine façon.
On a aussi Jules qui est plus souvent avec nous. Erwan, il vient de Nantes, donc là, il s'est déplacé exprès pour le concert au musée. Mais du coup, j'ai cette équipe, Erwan et Jules, qui font des trop belles photos. Je suis trop contente.
Et tu parles d'équipe, justement. Alors là, c'est sur les photographes. On avait aussi des musiciens, musiciennes qui t'accompagnaient la dernière fois. C'est moi, vu d'extérieur, j'ai l'impression que c'est ce qui te caractérise, hein, dans ton projet. Tu portes quelque chose, tu rayonnes de quelque chose qui te fait t'entourer de superbes personnes, j'ai l'impression. Je sais pas si tu le sens comme ça ou si les personnes qui t'entourent le sentent aussi comme ça.
Ouais, j'ai vraiment l'impression d'avoir beaucoup de chance là-dessus, parce que au début, quand j'étais au lycée, j'ai toujours voulu déjà faire de la musique, proposer des choses et tout, mais j'aimais pas du tout le faire toute seule. Ça me donnait pas tant de plaisir, en fait. J'avais pas trop l'impression que c'est du sens, en fait. Et une fois arrivée du coup à Angers, et que j'ai commencé à rencontrer plein de gens incroyables, super talentueux et tout, et chacun en fait met son énergie, une part de son talent dans quelque chose qu'on fait en commun. Et là, je trouve ça vraiment super de pouvoir partager les choses que j'aime avec des personnes que j'aime et qui sont trop fortes. Et tous ensemble, on fait que ça rend quelque chose d'un peu plus beau. Donc, j'ai beaucoup de chance de pouvoir faire ça.
En tout cas, n'hésite pas à nous tenir informés ici dans Topette. C'est ce que tu as fait. On se l'était presque promis de revenir dans Topette, mais n'hésite pas à revenir encore une fois en fonction de la suite des projets. N'hésite pas, avec Erwan, à rester pour l'instant jusqu'à la fin d'émission. On va juste faire un petit détour par ce sujet. On retrouve Loris et Sidonie qui s'intéressent à ce sujet de l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Qu'est-ce que ça fait? Pourquoi? Comment ça marche? Réponse avec eux.
Aujourd'hui, les réseaux sociaux font partie du quotidien des jeunes. À 12 ans ou 13 ans, beaucoup possèdent déjà un compte sur TikTok, Instagram ou Snapchat. Pourtant, l'âge minimum officiel pour s'inscrire est fixé à 13 ans. Il est rarement vérifié. Face à cette réalité, plusieurs gouvernements ont décidé d'agir. En France, une loi a été adoptée le 26 juin 2026 pour encadrer l'accès aux réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Cette loi a été votée par l'Assemblée nationale française et soutenue par le président Emmanuel Macron dans un contexte d'inquiétude croissante autour de la santé mentale des adolescents. L'objectif affiché est de protéger les jeunes face aux risques du numérique, cyberharcèlement, exposition à des contenus violents ou sexuels et de la désinformation. Les autorités estiment que les enfants ne sont pas toujours capables de prendre du recul face à ces dangers. D'autres pays vont encore plus loin. En Australie, le débat porte sur une possible interdiction totale des réseaux sociaux avant 16 ans. Aux États-Unis, certains États renforcent aussi les règles de vérification d'âge. Pourquoi maintenant? Parce que les chiffres inquiètent. Selon plusieurs études européennes, près d'un adolescent sur deux dit avoir déjà été confronté à une forme de cyberharcèlement. Le temps d'écran explose également. Certains jeunes passent plus de 4 heures par jour sur les plateformes sociales. Entre protection de l'enfance et liberté individuelle, la loi soulève cependant des questions. Comment vérifier l'âge? Les plateformes respecteront-elles ces obligations? Et surtout, l'interdiction est-elle vraiment la solution? Mais pourquoi vouloir interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans? Pour les professionnels de santé, les risques sont bien réels. Les psychologues alertent depuis plusieurs années sur l'impact des réseaux sociaux sur le développement du cerveau des enfants. L'exposition constante aux notifications stimule le système de récompense, favorisant des comportements proches de l'addiction.
Les principaux effets des réseaux sociaux pour les jeunes de moins de 15 ans, on va être sur ce que ça va venir développer en termes d'addiction. Hein, au niveau cérébral, on parle vraiment de la question de l'addiction. On compare même à un effet de drogue dans l'utilisation de répétée et régulière des réseaux. On peut aussi parler, ce qu'on observe aussi, c'est la notion de symptômes qui vont débarquer du type perte de confiance en soi et d'estime de soi, en lien avec les comparaisons excessives aux autres. Et pour autant, pour y trouver aussi du positif, c'est ce que ça vient inévitablement, oui, créer comme lien à l'autre, mais un lien qui peut, dans certains cas, être discutable.
Selon l'Organisation mondiale de la santé, près d'un adolescent sur cinq présente des signes de mal-être psychologique. Des études européennes montrent également une augmentation des symptômes anxieux et dépressifs chez les jeunes fortement exposés aux réseaux sociaux.
Cet écran-là, oui, cette façon-là de venir scroller sans arrêt, sur l'instant, il vient déclencher, mais c'est pour ça que c'est identifié comme étant une drogue, hein, ça permet de donner l'impression que ça va. Et puis quand on le pose, les symptômes débarquent et donc nécessitent d'être accompagnés. Donc l'interdiction, oui, mais avec cet accompagnement éducatif, en fait, en somme.
Le cyberharcèlement est un autre danger majeur. Les moqueries et l'humiliation ne s'arrêtent plus aux portes de l'école. Elles suivent les jeunes jusque dans leur chambre. Certains cas ont conduit à des situations dramatiques.
Je pense à une jeune que j'ai accompagnée, oui, sur la question du cyberharcèlement, qui s'est fait... elle était en CM2 quand elle a eu l'usage de son téléphone sans aucune limite et pour le coup elle s'est retrouvée très rapidement, donc à l'âge de 10 ans, à envoyer des photos d'elle, de son corps, à un homme, elle pensait que c'était un jeune homme de 13 ans et finalement non, c'était un homme d'une trentaine d'années, donc il y a eu plainte et poursuite juridique, mais oui, le cyberharcèlement, il est... c'est une menace permanente, on va dire. Donc oui, il y a...
Pour ces professionnels, limiter l'accès avant 15 ans permettrait de protéger une période clé du développement. Le cerveau des adolescents continue de se construire jusqu'à environ 25 ans. Plus l'exposition est précoce, plus les effets peuvent être marqués.
Ça, c'est une histoire de maturité, une question de maturité émotionnelle. Alors, on ne dit pas qu'à 15 ans, il y a une maturité suffisante. On dit juste que le parent aura eu la possibilité, jusqu'aux 15 ans au moins, d'être sans arrêt dans de la prévention, d'être là, d'être un accompagnant solide, j'allais dire, qui va pouvoir lui... transmettre à l'enfant jusque-là à quel point ça va être nécessaire d'être vigilant. Et ensuite, il l'aura dans les mains et il aura eu l'occasion. Ça ne veut pas dire qu'on ne lui donne pas accès à quoi que ce soit avant. Je ne suis pas pour ça du tout. Mais par contre, ça veut dire qu'une fois qu'il l'a dans les mains à 15 ans, il est davantage en mesure d'être vigilant à ça.
Mais l'interdiction seule ne suffit pas. Les spécialistes insistent sur un point. L'éducation au numérique reste essentielle. Apprendre à utiliser les réseaux de manière responsable pourrait être tout aussi important. Le débat reste ouvert. Protéger sans isoler. Interdire sans stigmatiser. Une chose est sûre, la question des réseaux sociaux chez les jeunes est devenue un véritable enjeu de santé publique.
En France, la majorité des jeunes de moins de 15 ans possèdent déjà un smartphone. Beaucoup ont créé un compte avant l'âge légal actuel fixé à 13 ans par la plupart des plateformes. L'inscription se fait souvent en quelques minutes avec une simple date de naissance déclarée. Concrètement, l'interdiction viendrait donc bouleverser des habitudes déjà ancrées. Ici, devant ce collège, nous avons rencontré Esteban, 14 ans, élève de 3e. Il fait partie de cette génération qui a grandi avec les écrans. On lui a d'abord demandé de se présenter, de nous parler de son usage des réseaux sociaux.
J'utilise Snapchat, WhatsApp et YouTube. Alors moi, j'aurais peut-être interdit avant la même règle. J'aurais fait à partir de 15 ans comme on veut, je crois, et entre 13 et 15 ans avec accord. Je pense que c'est parce qu'il y avait peut-être des propos ou des images pas faites pour les moins de 15 ans. Et qu'il y avait peut-être du cyberharcèlement ou des...
Son témoignage montre une réalité assez simple. Les réseaux sociaux servent avant tout à garder le contact avec les amis, à partager des vidéos, à discuter après les cours. Ce sont des espaces sociaux à part entière. Mais ces espaces ne sont pas neutres. Les établissements scolaires signalent régulièrement des conflits qui commencent en ligne et se poursuivent dans la cour. Les chefs d'établissement évoquent aussi des phénomènes d'exclusion numérique. Ne pas être sur les réseaux, c'est parfois être mis à l'écart du groupe. Le cyberharcèlement reste donc l'un des points les plus sensibles. Selon le ministère de l'Éducation nationale, une part importante des situations de harcèlement entre élèves comporte désormais une dimension numérique. Face à cela, des actions de prévention sont déjà organisées. Interventions en classe, campagnes d'information, numéros d'écoute. Mais la question reste ouverte, l'interdiction suffira-t-elle à réduire ces phénomènes? Côté parents, le regard est assez différent, même souvent différent. Nous avons rencontré Anaïs, bien connue sous le nom de la daronne angevine, mère de 4 enfants, dont une fille de 11 ans. Pour elle, le sujet est devenu centrale dans l'éducation.
Et c'est des questions qu'on se pose, d'autant plus que nous, c'est quelque chose avec lequel on n'a pas grandi. Et ça, on est vraiment une génération où tous les dangers de nos enfants, on les a vécus nous en tant qu'enfants. Donc il y a des choses qu'on arrive à appréhender, qu'on arrive à expliquer. Parce qu'on se rappelle en tant qu'enfant, comment on était frustrés de certaines choses. Mais là, c'est des choses qu'on n'a pas du tout connues nous. Et donc moi je me sens complètement démunie. Donc je suis très contente que ça soit interdit. Ça permet aussi de poser un cadre et puis de dire... De toute façon, c'est interdit, donc on en reparlera un peu plus tard, quoi. Nous, parents, ou même juste les enfants, en fait, eux, les premiers utilisateurs, qu'ils aient une formation qui soit dispensée par je sais pas trop qui, mais justement sur l'utilisation et les dangers, quoi.
Son témoignage met donc en lumière un décalage générationnel. Beaucoup de parents n'ont pas connu les réseaux sociaux durant leur adolescence. Ils ont découvert en même temps que leur enfant les codes, les risques et les usages. Dans les familles, les discussions autour du téléphone sont devenues fréquentes. À quel âge offrir un téléphone? Faut-il contrôler les messages, combien de temps d'écran autorisé. Certains parents installent des applications de contrôle parental, d'autres préfèrent miser sur la confiance. Mais tous reconnaissent la difficulté de poser des limites dans un univers numérique accessible 24 heures sur 24. Interdire l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans suppose une chose essentielle, vérifier l'âge de manière fiable. Aujourd'hui, pour créer un compte sur la plupart des plateformes, il suffit d'indiquer une date de naissance. Aucun justificatif n'est demandé dans la majorité des cas. La future application de la loi prévoit un contrôle d'âge renforcé. Plusieurs solutions techniques sont envisagées. Première piste, la vérification par pièce d'identité avec un système de sécurité, confirmant l'âge sans transmettre toutes les informations personnelles à la plateforme. Et la deuxième piste, un dispositif de comparaison d'images, par exemple un selfie analysé automatiquement pour estimer l'âge, éventuellement croisé avec un document officiel. Ces mécanismes existent déjà dans un autre secteur en ligne, notamment pour l'accès aux sites réservés pour adultes, mais leur généralisation aux réseaux sociaux soulève plusieurs défis. D'abord, celui de la protection des données personnelles. Confier son identité numérique à des entreprises privées inquiète certains spécialistes du numérique. Le risque de piratage ou de mauvaise utilisation des données est régulièrement évoqué. Ensuite, celui de l'efficacité réelle. Les adolescents peuvent contourner les restrictions en utilisant le téléphone d'un adulte, en créant un compte à l'étranger ou en passant par des plateformes moins régulées. Les experts rappellent que toute barrière technique peut être contournée si elle n'est pas accompagnée d'un suivi éducatif. Autre point, le rôle des autorités de régulation. Les plateformes devront prouver qu'elles mettent en place des dispositifs sérieux de contrôle. En cas de manquement, des sanctions financières sont prévues. Pour finir, la question dépasse les frontières françaises. Les grandes entreprises du numérique opèrent à l'échelle mondiale. La loi fixe un cadre. Son efficacité, elle, dépendra de sa mise en pratique et surtout de son acceptation par les utilisateurs.
Interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, c'est une décision forte. Elle vise à mieux protéger les jeunes face aux risques en ligne. Harcèlement, contenu violent, pression sociale. Sur le terrain, pourtant, les réseaux font déjà partie du quotidien. Les adolescents les utilisent pour parler entre eux, partager des vidéos, rester connectés après les cours.
Les parents, eux, cherchent surtout des repères et un cadre clair. La loi pourrait fixer des règles, mais elle ne remplacera pas la discussion à la maison ni la prévention à l'école. Au fond, la question est assez simple. Comment protéger les plus jeunes tout en leur apprenant à utiliser ces outils de manière responsable? Le débat est donc lancé. Il concerne toute la société.
Merci beaucoup, Sidonie Loris. Vous restez avec nous, vous aussi. Encore une fois, maintenant, on va retourner en musique pour conclure cette émission tout à l'heure, mais avant tout ça, on va aller en cinéma avec cette fameuse chronique, vous la connaissez bien maintenant, 2 et demi, et c'est, top, et c'est pas Topette, c'est Johan et Mathéo.
Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'attendre un film? J'imagine que oui, c'est quelque chose de véritablement frustrant puisqu'on aimerait pouvoir toucher, pouvoir voir cette œuvre qui nous a presque déjà convaincus avant sa sortie. La photo réalisateur, au casting, parfois à l'adaptation que le film est, s'il y a un affect positif, il y a de l'attente. Je me rappelle encore de cette scène l'année dernière, j'étais à mon ancien travail profitant d'une pause. Ça n'était pas la première fois de la semaine que je réactualisais la page internet liée au réalisateur coréen Park Chan-wook. Une première bande-annonce de son prochain film sort alors et elle est prometteuse, très prometteuse. Puis j'apprends quelques semaines plus tard que le film sera présenté à la Mostra de Venise devant un public et des critiques qui n'ont pas franchement été conquis. Et malgré cela, je garde espoir, j'évite le piège du streaming puisque le film est sorti il y a des mois dans plusieurs pays et ainsi disponible avec un petit peu de ruse. La magie du cinéma n'a pas de prix et le voilà devant nos yeux mercredi dernier. L'un des films que nous attendions le plus pour 2026, No Other Choice, aucun autre choix, de Park Chan-wook.
Oui, alors Park Chan-wook, c'est toujours un des premiers noms qu'on conseille quand on veut plonger sérieusement dans le cinéma coréen. Pour retracer brièvement sa filmographie, il commence discret avec The Moonies, The Sun's Dream, sorti en 1992, polar un peu bricolé qui le reniera presque, puis Trio en 1997, où le réalisateur est toujours en train d'élaborer son style avec ces deux films-là. Ensuite, il est toujours... Sort JSA en 2000, énorme succès en Corée, critique et commercial, thriller politique tendu à la frontière nord-sud, et là il va vraiment poser les bases. Et ensuite il enchaîne avec la trilogie de la vengeance, sûrement la trilogie de films thématiques la plus connue du cinéma moderne, Sympathy for Mr. Vengeance en 2002, Old Boy en 2003, Palme d'or du jury à Cannes, claque mondiale, tout le monde connaît ce film je pense, Lady Vengeance en 2005, violence stylisée, tragédie morale, mise en scène chirurgicale, Park devient une référence dans le monde du cinéma. Il part ensuite aux États-Unis avec Stalker en 2013, thriller gothique très contrôlé, puis retour en Corée avec Mademoiselle 2016, autre chef-d'œuvre de Park Chan-wook, bijou de sa filmographie vraiment. Il surprend encore avec Decision to Live en 2022, polar romantique mélancolique, pris de la mise en scène à Cannes. Enfin bon, voilà quoi. Park Chan-wook s'est attaqué à pas mal de genres du cinéma, mais garde en ligne directrice le suspense. C'est vraiment ce qu'il veut mettre en avant. Il était alors cohérent qu'il se laisse tenter par No Other Choice, cette année, satire noire sur le chômage et la compétition sociale. Mais on en parle juste après de cette satire, entre guillemets. Bref, une filmographie cohérente, mais jamais répétitive. Il passe du revenge movie au mélodrame, du thriller politique au film sensuel, tout en gardant cette patte ultra reconnaissable.
C'est mon passé. 나는 좋은 사람이다. 실직은 하고 싶어서 안 돼. 아니다.
며칠 될까 경찰도.
인간 벼락 같은 거 안 맞나.
오케이 다 죽었어.
No Other Choice adapte le couperet, le roman de l'américain Daniel E. Westlake, sorti en 1997 et déjà adapté au cinéma en 2005. Passé après Costa Gavras, ce n'est pas une mince affaire, surtout après le succès critique du film du réalisateur de Missing. Park Chan-wook transpose le récit dans sa Corée natale. Il nous conte donc l'histoire de Yuman Soo, cadre dans une usine à papier. Lui, à tout ce que la société fait miroiter aux travailleurs, il est l'exemple de la réussite. 25 ans à gravir les échelons dans son entreprise jusqu'à avoir une belle maison, deux belles voitures, deux beaux chiens, mais surtout une famille heureuse qui l'aime réciproquement. Alors qu'il essaye de convaincre ses nouveaux employeurs de ne virer personne, car en Corée on dit que licencier c'est décapiter, il apprend que lui aussi est remercié. Tombant alors de haut, Yuman Soo commence à perdre tout ce qu'il avait acquis jusqu'alors. Adieu les voitures, adieu les deux chiens, et peut-être même adieu la maison dans laquelle il a passé toute sa vie. Perdant ce qui faisait de lui un homme différent, il va tout faire pour retrouver son statut social. Et quand on dit tout, c'est vraiment tout. Yuman Soo commence à réfléchir à des stratagèmes, mais un se démarque un petit peu plus que les autres, éliminer la totalité de ses concurrents de manière littérale. Désormais, lui qui était syndiqué n'est même plus guidé par une certaine morale. Il n'est plus que le monstre d'un film qui tend désormais vers la satire sociale.
Enfin, normalement, car pour moi, en ce sens, No Other Choice, c'est un peu un oui, mais. La forme est ok, la patte du réal est très reconnaissable, même trop, parfois, avec ses transitions très stylisées. Moi, je pense que Park Chan-wook veut secrètement faire des clips musicaux, mais enfin bref. Toujours aussi innovant pour filmer des scènes de manière décalée, mais qui prennent aux tripes quand même. Mais dans le fond, c'est autre chose. Le fond traité est très politique de par son pitch de base, un employé licencié et au chômage après tant de loyaux services envers l'entreprise, c'est vraiment un boulevard. Et non, Wook préfère résoudre ses problématiques en les résumant à des problèmes personnels ou interpersonnels, mais jamais par des explications sociétales. On ne parle jamais des patrons, alors que c'est peut-être eux à la base du problème, je ne sais pas. Il se rattrape un peu en représentant la débilité des mentalités des, entre guillemets, familles traditionnelles et la dissonance que ça crée dans notre société. Mais bon, il traite quand même le problème à moitié avec son angle d'attaque, ça ne tape jamais là où ça pourrait faire mal, et c'est dommage.
Emmené par l'excellent Lee Byung-hun, connu notamment pour son rôle dans J'ai rencontré le diable, j'ai pas trouvé forcément que No Other Choice était un mauvais film. Park Chan-wook utilise bien la comédie pour rendre son film humoristique, et à bien des moments cela marche. On ressent bien que ce que fait Yuman Soo n'a rien de naturel pour lui, et quand il commence à prendre ses marques, le film le lui rappelle. Petit bémol, No Other Choice est une comédie dramatique, et si pendant une bonne partie du film, le ton ne contient aucune légèreté, nous ne sommes pas transportés par la gravité de ce qui nous est montré. La faute à une chose, effectivement, le traitement politique du sujet par Park Chan-wook. Ce dernier passe du temps à nous montrer la beauté de ses plans, de sa mise en scène, de sa lumière, mais oublie le fond véritable que doit contenir son film. No Other Choice devrait être une fable dénonciatrice, bien qu'extrême, sur les dérives de cette société capitaliste. Alors comment perdre son travail, ce tabou de société, comment cela entraîne des gens à commettre des choses horribles? Ici, ce n'est pas vraiment présent, on le comprend, mais le réalisateur coréen ne s'attarde que très peu sur le sujet. Il nous est impossible de faire un parallèle avec quelques situations réalistes, or cela devrait l'être. C'est la même critique que nous pouvions faire à Dossier 137 de Dominique Moll, qui ne montrait que pendant 10 petites secondes l'aspect systémique de la violence des forces de l'ordre. Eh bien ici, c'est pareil, les patrons sont juste l'objectif. Si le personnage est en face d'eux, il retrouve son emploi. Alors effectivement, c'est véritablement un objectif. Si Park Chan-wook critique bien la famille traditionnelle, la question profonde de l'emploi n'est pas déconstruite. Preuve en est le choix de faire passer l'histoire chez la classe moyenne plus, car ici, Youmansu reste au chômage car il veut rester dans la branche du papier. C'est uniquement pour cela. Des films comme Moi, Daniel Blake de Ken Loach ou Rosetta des frères Nardin nous montrent bien que la recherche d'emploi et la précarité n'est pas un jeu. Park Chan-wook oublie cela. Alors oui, c'est beau, c'est même très beau. Peut-être même un peu trop d'ailleurs, car cela nous donne des visuels peut-être trop colorés et lisses. Au début, cela sert dans cette idée de montrer un quotidien sans accroc, rempli de bonheur, mais après, les choses sont évidemment différentes. Et puis, l'autre point noir du film, à mes yeux, réside sans doute dans la surcharge de transition bling-bling, comme dans le Tintin de Spielberg. Ça ne sert à rien. Et est-ce que c'est vraiment ça qui nous intéresse dans le cinéma ? Pas sûr. Alors, malgré tout ce qu'on a dit, on vous conseille évidemment d'aller voir No Other Choice, ce serait ne serait-ce que pour donc vous faire votre propre avis, mais aussi car ça reste un film qui vaut le détour, mais il n'est pas le seul. Hein. On a notamment donc Les Dimanches d'Alaouda Ruiz des Azoua, Urkin d'Aris Dickinson ou Le Gâteau du Président d'Hassan Hadi qui méritent aussi qu'on leur porte attention. Nous, on vous donne rendez-vous dans deux semaines pour parler sans doute de Marty Suprême et de son réalisateur un petit peu problématique. Et puis en attendant, si vous voulez voir nos autres critiques, vous pouvez nous retrouver sur Instagram. Le nom de notre compte, c'est toujours de ennemi.
Merci Johan, merci Mathéo. Effectivement, bah tu m'as volé ma transition, deux et demi sur Instagram pour vous.
C'est ça, exactement, toujours.
Tout simplement, avec des, aussi des extraits de ce qui a été fait pendant Premier Plan. Hein.
Exactement, notamment trois interviews avec trois réalisateurs qui sont passés en compétition. On vous laisse le mystère du nom des réalisateurs, on vous laisse voir.
Tiens, je lance un débat comme ça, Titanic, un film à voir ou pas?
Carrément, ouais. Oui, Titanic, un des grands chefs-d'œuvre du cinéma.
Ah d'accord, je pensais que ça aurait été dans l'autre sens.
Non. Okay. Cameron a quand même des bons films.
Bon, je pensais ouvrir un bon débat, mais en fait, bon, peu importe. Merci beaucoup les Johan, les cinéphiles et puis Mathéo. On va conclure avec notre invité de la soirée, Yago, qui est peut-être cinéphile par ailleurs. Tu es une grande...
Pas du tout.
Pas du tout.
Alors, vraiment, j'ai aucune référence de cinéma. Tout le monde me parle, le film. Je sais jamais, je n'ai vu aucun film. Je sais pas du tout que j'aime pas. Mais juste, je crois que j'ai pas trop le temps. Enfin,
ouais, et puis t'es musique, cinéma, des fois, c'est...
Ouais, en fait, j'aimerais bien, parce que c'est hyper intéressant de pouvoir traduire même ce qu'on fait artistiquement en images. Je pense que ça me manque un peu.
Mais c'est des métiers différents, on peut pas avoir toutes les compétences non plus. Tu chantes très bien, tu composes très bien, donc c'est déjà ça. Avec ce titre Galaxy qui est sorti aujourd'hui, et puis à retrouver sur tes réseaux sociaux aussi.
Ouais, sur Insta c'est Yago Songs, Yago avec un J, et Songs comme les chansons en anglais.
Voilà, les prochaines actualités, le mot à retenir concernant ce titre, ton univers, les prochains projets. 28 avril, j'ai noté à Nantes.
Ouais, à Trempeau à Nantes. Avec l'accompagnement, et ben pas mal de concerts, et puis le
4 clip. Mars au 4.
Ouais, le 4 mars au 4, avec il y aura No Sex Last Night et Kamango aussi. C'est à l'occasion du concert Copain Lové, donc très hâte aussi.
Bon, et ben on s'est informé. Merci d'être passé dans Topette ce soir.
Merci.
Merci Erwan de l'avoir accompagné.
Ouais, bah c'est un plaisir. Hein.
Puis on va faire la petite photo. Juste, on rend l'antenne et puis on se fait une petite photo tous ensemble et on se retrouve demain à 18h10. Prenez soin de vous, Topette.
Topette.
De ma mère, le dernier dessin animé, la première danse oubliée, les minutes de silence oubliées, les visages de la résistance, la première femme qui a voté en France. Bateau de fortune, oublié le jour où sur la lune un homme a marché. J'ai oublié. J'ai oublié ma toute première lettre d'amour, ma dernière cigarette roulée.